Bonjour.
Bonjour.
Maïté, quel est le menu du jour?
Quel est le plat du jour?
Là, aujourd'hui, le plat du jour, c'est le poulet basquez. Hein?
J'ai un problème. J'ai des amis que j'aime beaucoup qui sont végétariens.
Mais on peut faire un poivron à la basquez.
La cuisine, en fait, est-ce que c'est vraiment le but aujourd'hui, mon Christian?
Non. Tout ce qui se passe m'intéresse autour de mon industrie, qui est la manière de se nourrir.
Plat du jour, le podcast qui parle des actualités du business de la bouffe.
Avec Daniel Coutignon
et Philibert Chambon.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle émission Plat du jour. Et cerise sur le gâteau, c'est le premier épisode que nous enregistrons dans notre nouveau studio, tout beau, tout nouveau, chez Smart Food Paris dans le 20e arrondissement. Alors, tout nouveau, oui, tout beau, pas encore, parce qu'on est juste en train de s'installer. Donc, désolé pour notre invité qui découvre notre bureau et nos locaux encore un petit peu en installation. Alors, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui a imaginé un nouveau format d'émission pour Business of Bouffe. Alors, bonjour Daniel.
Bonjour Philibert, en effet, mais disons plutôt que Plat du jour, c'est une évolution naturelle de notre émission du confinement fait maison. Et comme on dit dans les génériques, on va dans cette émission s'intéresser aux actualités de la bouffe dans un format des podcasts plus court que d'habitude.
Alors aujourd'hui, nous recevons le directeur d'un des rares festivals bouffe qui n'ait pas été annulé en cette rentrée fortement perturbée par le Covid. Nous sommes avec Romain Rimbaud, le nouveau directeur du festival Omnivore. Bonjour Romain.
Bonjour.
Bonjour.
Alors la prochaine édition du festival a lieu dans quelques jours, du 12 au 15 septembre prochain à Paris. Avant d'en parler, Romain, je te laisse te présenter rapidement.
Eh bien, Romain Rimbaud, j'ai 41 ans, je suis parisien lyonnais, je sais plus trop comment le dire, un peu entre les deux villes en permanence, et donc oui, je travaille pour ce très bel événement Omnivore depuis 5 ans maintenant, et en tant que directeur depuis un an.
D'accord, c'est tout nouveau. Alors justement, parlons d'Omnivore. Est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire d'Omnivore? Ça n'a pas toujours été un festival. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est ça a évolué?
Omnivore est né en 2003. À l'origine, c'était un magazine dédié essentiellement aux professionnels, créé par Luc Dubanchet, qui était, avant de se lancer dans Omnivore, patron du Goemio. Il faut se rappeler du contexte. C'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on était dans un univers un petit peu figé. Il se passait pas forcément grand chose sur la scène culinaire. En tout cas, pour Luc, le créateur, c'était un petit peu raide, quoi, ce qui se passait au resto. Et il a eu envie d'ouvrir les horizons, on va dire, et de s'intéresser à plein d'approches un peu nouvelles, avec une envie aussi de démocratiser le restaurant, de l'ouvrir plus largement, de le rendre aussi un petit peu plus cool. Derrière tout ça, derrière la forme, il y avait aussi évidemment beaucoup de fond, avec la volonté de saluer, de mettre en lumière tous ceux qui, au quotidien, œuvraient pour le changement de manière très responsable, très ancrée sur leur territoire, avec une conscience très aiguë des saisons, des produits et du rôle qu'ils avaient à tenir en tant que chef, au-delà de faire plaisir à leurs clients.
Déjà en 2003,
parce que
c'était pas un sujet, on va dire, qu'on évoquait souvent à cette époque-là, quoi.
Non, clairement pas. En ça, on peut dire qu'il a été visionnaire et l'histoire lui a donné raison. Donc, à travers de ce magazine, il a souhaité rendre hommage, voilà, à tous ceux qui prenaient des risques.
Chefs engagés.
Voilà, des chefs engagés, pas que des chefs d'ailleurs, puisque rapidement il a souhaité expliquer aussi le travail au quotidien des artisans,
des producteurs,
de tous ceux qui gravitaient autour du milieu des chefs, de tout l'écosystème. Il a beaucoup voyagé aussi de par le monde pour rendre compte de ce qui se passait.
C'était donc pas que France, hein. C'est vraiment nouvelle cuisine dans le monde entier, quoi.
Ouais, alors il l'a appelé jeune cuisine,
c'est ça le terme exact.
Derrière la jeune cuisine, d'ailleurs, il y a souvent un petit amalgame. C'est pas simplement les jeunes chefs. C'est vrai qu'Omnivore a été toujours très très défricheur en voulant mettre en avant des nouveaux visages, des nouvelles approches, mais il y avait aussi dans l'idée de la jeune cuisine qu'on pouvait rester jeune très longtemps à partir du moment où on restait en mouvement.
On se réinvente.
Et qu'on restait curieux, qu'on se remettait en question. Donc c'est tous ces acteurs-là qu'il a mis en avant dans le magazine, avec, oui, une dimension internationale, mais avant tout pour secouer le paysage culinaire français, pour dire à tous ces jeunes chefs et à tous ceux qui s'ennuyaient un petit peu dans le milieu, un autre chemin est possible.
Ouais, montrer que ça bougeait en dehors de nos frontières.
Voilà. Alors, ne subissons pas ce qui peut se passer à l'étranger. Il a été d'ailleurs taxé pas mal de French bashing, mais son objectif, c'était surtout d'inscrire la France dans le, on va dire, dans le nouvel ordre culinaire mondial avec des approches plus décontractées et surtout plus engagées.
Et comment ça évolue vers les festivals et les festivals qu'on connaît aujourd'hui, en fait? Comment on arrive là?
Alors, l'histoire du magazine continue, hein, encore maintenant, mais en 2006, c'est vrai qu'on a commencé à parler davantage d'Omnivore comme un festival, puisque c'était la première édition au Havre, dans un gymnase. Je n'y étais pas, j'en ai entendu pas mal parler. Mais il y avait déjà à l'époque des Michel Bras, des Ducasse,
du beau monde.
Un René Redzepi aussi, qui présentait déjà Noma et son manifeste pour la cuisine scandinave. Donc il y avait déjà du beau monde, pas forcément à l'époque très médiatisé, mais voilà, l'histoire du festival est née en 2006. Donc du Havre, on est passé ensuite à Deauville, et en 2012 bascule à Paris.
Tous les ans ou...
ouais, festival annuel en février ou mars la plupart du temps. Donc on arrive là en 2020 sur la 15e édition, mais entre temps il y a eu aussi beaucoup d'autres festivals à l'étranger, puisque Omnivore s'est déployé à partir de 2009 à l'international, avec des festivals à New York, à Shanghai, à Moscou, à Londres, un petit peu partout sur la planète, pour justement aller s'inspirer de partout, pas s'arrêter à nos frontières, mais aller voir ce qui se faisait d'intéressant à Istanbul, vraiment sur tous les continents, et confronter les chefs français, tout le secteur de la restauration en France, à ces nouvelles pratiques, à ces nouvelles techniques. Et c'est ça qui a fait aussi la force d'Omnivore, c'est ce grand parcours à l'international, cette communauté à l'international, où certains chefs lillois, par exemple, pouvaient se sentir plus proches d'un chef d'Istanbul que de leur propre voisin. Quoi.
Ouais,
c'est créer une espèce de modélisation positive de la bouffe. Je vais reprendre votre terme, ça nous plaît pas mal.
Si, ça nous fait plaisir.
À Montréal, d'ailleurs, on parle que de bouffe. Hein. Omnivore, c'était le festival bouffe.
Il va falloir qu'on décline notre podcast au Canada. Avec plaisir.
Et une petite question, parce que moi, je connaissais Omnivore comme point de vue consommateur. Je connaissais pas trop les coulisses ou l'organisation derrière, donc j'ai appris que finalement Omnivore appartenait aujourd'hui à GL Events, en fait, et que c'est un rapprochement qui s'est fait dans le temps graduellement. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça se fait?
Alors j'ai pas vécu cette période de rapprochement, c'était en 2012, mais en tout cas Omnivore est né en mode start-up avec beaucoup d'engagement, de bonne volonté autour, mais c'est vrai qu'à un moment pour se développer il a été nécessaire. Alors effectivement le studio est neuf mais pas encore complètement prêt, parce qu'on se prend des coussins.
C'est la beauté du direct.
L'isolation phonique qui commence à tomber, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas.
Un studio en carton.
C'est qu'on s'est installé ce matin, pour être honnête avec nos auditeurs. On a encore un peu de boulot, comme je le disais en intro. Les conditions du direct, quasiment.
Donc oui, il y a eu un rapprochement en 2012 pour permettre aussi à Omnivore, je parlais de l'international, pour se développer à l'international, pour être plus solide. C'est l'événement lui-même coûte très cher à monter.
Bien sûr.
Et voilà, la force de frappe de GL a permis à Omnivore de monter d'un cran, de décoller. Et l'intelligence de ce rapprochement, c'est que GL a vraiment fait confiance à Luc à l'origine pour rester sur cette ligne très précise, en totale indépendance. Et c'est encore le cas maintenant.
Super. Et si on parle de l'édition 2020, parce que de toute façon, elle arrive bientôt, je pense que nos auditeurs sont curieux de savoir quel est l'angle pour cette année, quels sont les thèmes, quels changements par rapport aux années précédentes.
Bah, l'angle, finalement, c'est toujours le même. On enfonce le clou chaque année. On a intitulé cette édition La cuisine grandeur nature, pour rappeler le lien essentiel qu'il y avait à tenir entre la cuisine et le vivant et la terre. Grandeur nature aussi parce que il y a un gros changement pour Omnivore, c'est le changement de site. On déménage de la mutualité au parc floral, avec cette volonté là aussi, quelque part symboliquement, de se mettre au vert et entouré d'arbres.
Bon choix.
Et puis grandeur nature, c'est apparu aussi comme une évidence derrière quand on a assisté les 6 derniers mois à tous ces événements virtuels. Et c'est finalement aussi, je pense, ce qui nous a fait tenir pour le maintien, c'est qu'on voulait absolument proposer un événement grandeur nature. Donc voilà, c'est un peu le claim de cette année. Mais qui nous intéresse, c'est d'expliquer que la cuisine, l'alimentation, joue un rôle essentiel dans la transformation de notre société. Mmh. Et tous ces invités qu'on a, 150 en tout, qui sont répartis sur 5 différentes scènes, se retrouvent autour de cet engagement. Et le lien à la nature est très fort pour eux tous. Donc, c'est ça peut-être qu'on peut retenir. La vraie nouveauté aussi, au-delà du parc floral et des nouvelles dates, puisqu'on s'est aussi posé au mois de septembre au lieu de mars.
Ouais, cette année, c'était compliqué.
C'était prévu déjà avant tout.
Ah, vous aviez quand même prévu de le faire la rentrée avant le
Ouais, on avait prévu COVID. Ça déjà il y a une bonne année, bon. Parce que pour moi, et ça rejoint ce que je voulais souligner, l'idée que Omnivore devait absolument redevenir un festival avec tout ce que ça comporte de festif et estival, et donc se repositionner sur la fin de l'été avec des espaces extérieurs, la possibilité pour tous ces visiteurs de évidemment venir se nourrir intellectuellement, s'inspirer sur les différentes scènes, mais aussi prendre le temps de manger un bout, de boire et de se retrouver quoi. C'était aussi un peu notre frustration les 8 dernières années à la mutualité. On était dans un lieu très central, très confortable, mais il manquait peut-être cet esprit un peu de festival qu'il y avait justement au début au Havre et à Deauville. Donc,
sympa. Ouais, parce que du coup, comment ça se passe pour nos éditeurs qui connaissent peut-être pas le festival? C'est ouvert à quel public? Qu'est-ce qu'il y a? Des masterclass, des dégustations? Tu peux nous en dire un peu plus concrètement?
Alors, c'est toujours difficile de définir le festival puisque c'est un format assez hybride. Mmh. Il est à la fois destiné aux professionnels, c'était sa vocation d'origine, mais il est depuis des années aussi ouvert au grand public. Et là, c'est vraiment un coup d'accélérateur avec ce déménagement, une capacité plus importante aussi au parc floral, et la volonté vraiment d'élargir au grand public de façon encore plus assumée. Et donc, il y a sur le temps du week-end, le 12 et 13 septembre, une possibilité pour le grand public sur un ticket d'entrée très accessible d'assister à une partie des masterclass et de la proposition omnivore. Mmh. À partir du dimanche, on est sur un format aussi accessible aux professionnels et aux grands passionnés de cuisine, ouais. Où là, on a accès à d'autres scènes encore, avec des approches un peu plus pointues, plus techniques. Mais pour le résumer, il y a 5 scènes en tout, chacune thématique. On a la grande scène où on accueille nos têtes d'affiche et les grandes révélations de l'année. On a une scène dédiée aux artisans, où on s'intéresse vraiment au travail au quotidien de ces producteurs, boulangers, pêcheurs, céramistes aussi, on en parlait tout à l'heure. On a une scène dédiée à l'univers du cocktail, avec des bartenders qui nous montrent là aussi leur création et qui se racontent aussi. Hein. Il s'agit pas simplement, c'est valable sur la grande scène, il s'agit pas simplement de faire une démo technique, c'est aussi prendre le temps de s'interroger sur le parcours, sur les valeurs des uns et des autres, sur ce qui les anime au quotidien. Donc ils se racontent, ils défendent leur vision.
C'est interactif avec le public ou avec le... Comment ça se passe?
C'est toujours compliqué de faire intervenir le public, surtout sur la grande scène. Mais l'animateur, donc Boris Corridian pour la grande scène, essaye vraiment de poser un maximum de questions, de pas se laisser emporter justement dans la partie trop technique recette, pour garder le contact avec le public. Sur d'autres scènes plus petites, il y a cette possibilité. Ouais.
Juste une parenthèse, parce qu'on a aussi...
J'ai pas fini sur mes scènes.
On va y venir. Moi, j'ai une mauvaise habitude d'interrompre nos invités. Ça va, Philibert, il me dit toujours ça à la fin de podcast.
Et les invités se laissent faire en général.
Les auditeurs qui le soulignent.
Mais c'est juste qu'en fait, c'est justement pour donner la parole au public, parce que nous, on demande à notre audience de poser des questions à nos invités avant l'enregistrement. Et notamment, il y a une question par rapport à les scènes des réflexions grand angle, en fait. Est-ce qu'elles seront disponibles en replay? C'est une question des Clémence qui voudrait savoir si elle pourrait voir ça en replay.
Et non, malheureusement, pas cette année. On y viendra peut-être. On a eu quelques contraintes aussi pour l'organisation du festival. Donc, on a dû renoncer à certains points qu'on avait prévus. C'était le cas. Hein. Sur l'ensemble des scènes, on souhaitait organiser des captations et les rendre disponibles pour que le festival vive aussi tout au long de l'année. Donc, non, malheureusement, pas cette année. Mais Grand Angle, oui, c'est une scène très intéressante parce qu'elle sort justement totalement de l'aspect démo. Mmh. Là, on traite vraiment les grands enjeux de la restauration. On se pose des questions sur le fond. Ouais, quoi. On très rapidement sur le programme de cette année, on a une première journée où on se demande si la cuisine va sauver le monde. Ça paraît grandiloquent comme ça, mais ça permet d'aborder. C'est assez ambitieux.
Comme sujet.
On n'est pas sûr de trouver la réponse en une journée, mais on va s'interroger sur le rôle des cantines scolaires, sur l'intégration par la restauration, sur tout cet élan solidaire qu'il y a pu avoir pendant le confinement, comment le pérenniser. Mmh. Donc on pose des questions très très ouvertes qui dépassent aussi parfois le simple secteur de la restauration. Sur la journée du lendemain, le mardi, on va s'intéresser aux nouveaux modèles aussi qui ont pu émerger pendant le confinement. Mmh. Et là, on fait intervenir, pareil, à la fois des chefs, mais aussi des sociologues, et plein d'experts très, très différents.
Des entrepreneurs, des acteurs de la distribution, de la livraison peut-être. Parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup couvert.
C'est très intéressant. Et dans cette volonté d'ouverture qu'on a aussi sur ce omnivore nouvelle génération, c'est donc l'ouverture plus large au grand public sur un format adapté. J'ai pas parlé du food court, etc. Mais on y reviendra.
Parlons-en.
Ouais. Mais juste pour finir sur les entrepreneurs, c'est vrai que c'est important.
Ouais.
La scène Grand Angle leur est dédiée aussi. Il y a beaucoup de questions sur. On est souvent caricaturé comme le show culinaire, la scène des chefs, hipsters, ouais. Barbus. On s'intéresse de près à la transformation en profondeur du secteur. Ouais. Et nous, on veut embarquer un maximum de monde. Et il y a à l'heure actuelle beaucoup même de restaurants concept, de food entrepreneurs qui ont cette volonté de lier le rentable au responsable. Et cette scène Grand Angle est dédiée aussi à toutes ces questions-là. Comment on lie la rentabilité à la responsabilité.
Donc à chaque scène Grand Angle, tu as une sélection d'invités, donc des chefs, des entrepreneurs qui vont interagir avec un animateur qui...
C'est ça, avec 8 conférences par jour qui viennent alimenter la grande question qu'on se pose.
Et tu parlais du food court alors tout à l'heure.
Ça m'intéresse particulièrement cette partie-là.
Donc il y a un endroit où on peut aller déguster directement les savoir-faire de tous ces chefs ou de ces entrepreneurs.
C'est ça, c'est une des grandes nouveautés de l'année. On va pouvoir enfin manger sur c'était quand même la grande frustration. On entendait parler de bouffe pendant 3 jours et on pouvait rien goûter. On sortait de la mutualité pour manger un mauvais sandwich. Donc là, non, on fait tout sur place et de la même manière que sur les scènes, on a fonctionné avec une programmation. Donc chaque jour, on a dans le food court intérieur, il y a une partie intérieure au parc floral et une partie extérieure. Dans la partie intérieure, on aura des chefs sur des corners qui viendront proposer des plats, des bouchées qu'ils auront créés spécialement pour le festival.
T'as tous les chefs qui participent jouent le jeu ou ça non, vous avez sélectionné
Non, ils sont 150.
Ouais, non, il y a 150 chefs, d'accord. Non,
non, non, non. On a 4 à 5 chefs chaque jour qui viennent.
Et tous les jours, ça tourne.
Ça va tourner.
Il y a qui? Tu peux nous donner des noms, faire un peu de name dropping.
Il y a Adrien Cachot.
D'accord, qu'on salue.
Voilà, ça doit vous parler.
Bien sûr, on l'a reçu.
Et après, il y a Romain Méder, il y a Amandine Chéniaud.
Du beau monde.
Il y a, je vais pas tout vous révéler, mais il y a un paquet d'invités.
Il y a des surprises encore. D'accord.
Ouais, il y a encore beaucoup de surprises. Il y en a qui font aussi un petit peu leur diva. Oui, je sais pas.
Je sais pas si je vais venir.
Mais ils ont très envie. Et donc, je vais pas tout vous annoncer là, mais on a un beau panel des chefs vraiment qui viennent de toute la France.
Il y a des chefs étrangers dans le food court.
Alors cette année
un peu compliqué.
Cette année
on voyage un peu quand même.
On a beaucoup repensé la chose. Moi j'ai eu un confinement particulièrement agité où on a dû revoir l'ensemble des plans, l'ensemble de la proposition, et on a décidé finalement de se concentrer sur une programmation 100% française.
Ouais, parce que les frontières pouvaient être fermées, elles sont pas complètement fermées, mais oui.
Il y avait vraiment trop de risques quand on a pris cette décision, et encore maintenant il y a beaucoup de chefs qui se retrouvent coincés, parce que je parle de programmation française. En fait, on a voulu proposer une programmation hexagonale, donc je précise, c'est-à-dire des restaurants ou des gens implantés en France. Mais il se trouve qu'il y en a qui sont
des chefs étrangers qui sont en France.
Ouais, il y a des chefs étrangers qui sont en France, sauf qu'ils ont eu la mauvaise idée pour certains de partir et qui peuvent parvenir.
Ouais.
C'est le cas par exemple d'Assaf Granit de Chabourg, qui était un de nos invités aussi sur la grande scène, qui a pas pu venir. Donc je pense qu'on a vraiment bien fait de rester sur cette idée, et ça nous permet d'avoir plus de créneaux aussi pour nombre de chefs et intervenants qu'on avait envie d'avoir sur scène depuis longtemps, et on manquait toujours de créneaux.
Et au-delà du food court, il y a aussi les pop-up dinners en fait, avec une sélection hyper pointue, là. C'est des grands chefs.
Ouais, les pop-up dinners, c'est toujours délicat d'en parler parce que c'est un peu happy few, quoi. On n'a que 60 couverts et évidemment, ça se bagarre pour les places et on est souvent, malheureusement, à refuser, quoi.
En tout cas, merci pour la place que j'ai prise ce matin. On se présente, malheureusement, j'ai pas reçu.
Donc, on a effectivement deux pop-up dinners. Ça, c'est la particularité d'Omnivore depuis le début, depuis sa création. On a toujours fait à travers le monde. C'est l'idée de réunir deux, trois chefs qui se connaissent pas forcément et de les faire cuisiner ensemble, hein, tout simplement un quatre mains. Sauf que ça se fait dans des conditions toujours un petit peu... Enfin, c'est des conditions de festival, donc ça bricole, ça les pousse aussi à beaucoup d'inventivité. Donc on a un premier pop-up dinner le dimanche entre Glenville et Nicolas Pourcheresse. Pourcheresse, c'est le tout premier chef à être monté sur la scène d'Omnivore il y a 15 ans. Mmh. Donc c'était aussi un clin d'œil pour la 15e, chef lillois qu'on adore.
Et lundi.
Et le lundi.
C'est des stars.
Ouais, on en a pas mal parlé. C'est la rencontre parce qu'ils ne se connaissaient pas encore, ouais, étonnamment. Mais donc, c'est Alexandre Mazzia et Pierre Gagnère.
Ah ouais, c'est que des numéros 10, quoi. Voilà, c'est un gros match.
Ouais, là, c'est vraiment le dîner très attendu. Mais à côté de ça, on va aussi proposer des déjeuners qui seront un peu plus accessibles. Et là aussi, c'est une petite fierté. On a Vivien Durand de Lormont, près de Bordeaux, qui ferme son resto et qui délocalise clairement son resto pendant 3 jours sur Omnivore pour proposer, avec toute son équipe, toute sa brigade, l'équipe de salle. Et pendant 3 jours, on pourra goûter la cuisine de Vivien sur le festival.
Sympa. Vous attendez combien de personnes, grand public, en...
Bon, c'est une question
même si simple. Ouais.
Ouais, c'est une question à laquelle est toujours difficile de répondre et cette année encore plus. On est de toute façon limité par une jauge de 5000 visiteurs à un instant T. Ça nous va bien.
Respecter la réglementation.
C'est pas, enfin pour Omnivore, c'est pas un souci. On est dans cette, on est généralement entre 3 et 4000 visiteurs jour sur les.
C'est une des raisons qui fait que ce festival a pas été menacé par l'interdiction.
Exactement. C'est qu'on pouvait tenir.
On est en dessous des 5000 personnes.
On est en dessous, donc ça c'est un point important. Donc, on va essayer d'aller sur ces mêmes chiffres, voire un petit peu plus que les années précédentes, en prenant évidemment en compte que certains restent frileux par rapport à la situation, malgré tout ce qu'on a mis en place pour sécuriser l'événement.
Tu disais tout à l'heure qu'il n'y aura pas de captation d'image à cause du Covid. Je vois pas trop le lien parce que c'est dommage finalement. Encore plus cette année, dans la mesure où les gens peuvent moins se déplacer, que tu vas recevoir un peu moins de monde, ça aurait été
bien sûr
très bien.
Mais le lien, il est pas. C'est pas pour raison sanitaire, c'est pour raison budgétaire.
D'accord.
Non, mais parce que
il manquait cette brique.
Oui. Non, mais c'est important, mais parce que le Covid et la crise qu'on traverse actuellement a un impact sur les budgets aussi. Enfin, les organisateurs d'événements ont annulé, ils le disent souvent très rapidement, pour raison sanitaire, mais c'est aussi que cette crise sanitaire a engendré de grosses pertes chez beaucoup.
Surcoût pour réaliser les événements.
Voilà, un surcoût pour organiser l'événement. Pour l'organiser de manière sécurisée, c'est un énorme budget supplémentaire.
C'est plus lourd.
Voilà, on casse aussi un peu je sais que ça vous intéresse de parler un peu business.
C'est une question d'après. Après, j'avais commencé à y aller là.
Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais forcément, le modèle économique d'un événement, c'est de densifier, c'est de louer un espace et de faire rentrer le plus de monde et un maximum de partenaires, d'exposants. Donc là, en augmentant la taille des allées, en espaçant, en gardant les distances, on fait rentrer moins de visiteurs, mais aussi moins d'exposants, moins de partenaires. Et donc, ça vient forcément sur le budget final. Et puis, il se trouve qu'il y a évidemment aussi des exposants, des partenaires qui ont pris plein fouet et qui ont coupé. Donc, heureusement, nous, sur Omnivore, depuis 15 ans, on a construit des partenariats très solides. Et le propos même d'Omnivore, qui vient en soutien de la profession depuis toutes ces années, il est rejoint par tous ces partenaires et grâce à eux on va pouvoir maintenir l'événement mais c'est aussi souvent un malentendu qu'il y a sur les annulations d'événements. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que si on y met les moyens, si on a l'assise financière, si on prend le risque, c'est tout à fait faisable d'organiser un événement de moins de 5000. On est autorisé à le faire, on n'est pas des hors la loi quand on organise un événement.
Financer.
Mais il y a une vraie prise de risque. Nous, il se trouve qu'Omnivore ne dépend pas que de la billetterie, que du visitorat et dépend surtout.
Quel est le ratio justement des revenus entre la billetterie, le sponsor ou d'autres revenus?
On doit être autour de 80-20. 80 sur la vente d'espace et le sponsoring, on va dire. Donc, on le sait avant d'ouvrir, quoi, si ça tient la route ou pas.
C'est un format très proche de la presse, finalement, d'un magazine, d'un ancien
média.
Ouais, bien sûr.
Et la billetterie, donc, c'est que 20%.
Ouais, à peu près.
Et en termes des coûts, tu vois là que c'est des coûts importants pour réaliser un festival de cette taille-là. En plus, avec toutes les mesures sanitaires, etc., je pense qu'on a évoqué, il y a un surcoût. Tu peux nous donner une idée des budgets? Quel budget
J'ai pas forcément le détail de tous les postes, mais...
De grandeur.
Simplement déjà avoir des agents de sécurité, des sentinelles Covid, comme on les a appelés, qui vont circuler sur tout le parc floral pour s'assurer que tout le monde respecte bien les mesures sanitaires.
Ça
a un coût. C'est aménager les accueils.
Au-delà du Covid, combien ça coûte un festival comme Omnivore en fait à réaliser?
Je ne vais pas vous répondre comme ça.
On essaye.
Non, c'est une belle tentative, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de nos revenus. Mais
j'ai aucune idée même de l'ordre de grandeur. Donc, d'habitude, j'aime bien donner un chiffre pour te faire réagir, mais là.
Non, mais c'est pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte. Quand on loue un espace comme le parc floral ou n'importe quel parc expo, c'est totalement nu. Mm-hmm. Et vous arrivez sur Omnivore,
il y a
des scènes, il y a des cuisines de partout.
Éphémère.
Tout ça est construit spécialement pour
beaucoup d'aménagements. Ouais.
Donc c'est énormément de coûts en aménagement, en audiovisuel, en technique, en fluide et en humain aussi. Et donc le surcoût Covid, oui, c'est lié à l'humain, surtout du matériel. Voilà.
Mais les intervenants, juste chef, journaliste, les gens qui animent les scènes, quelle espèce de collaboration existe entre les festivals et eux? Ils sont payés pour cette intervention-là ou c'est un échange de visibilité? Comment ça fonctionne?
Non, absolument personne n'est payé pour intervenir sur Omnivore. En fait, pour beaucoup de chefs, mais ça c'est aussi l'histoire d'Omnivore qui le fait. C'est une forme de reconnaissance, c'est une fierté,
de visibilité
aussi pour certains, mais c'est surtout l'envie de partager ses convictions. Ils savent quand ils viennent sur le festival qu'ils ont carte blanche. On leur impose absolument rien, quoi. Mm-hmm. S'ils viennent sur scène, c'est que leurs propos nous intéressent, leur singularité nous touche et qu'ils défendent au travers de leur travail au quotidien, voilà, des valeurs dans lesquelles on se reconnaît. Donc c'est pour ça qu'on les invite. Et on les laisse dérouler comme ils le sentent. Donc, ils se sentent vraiment très bien accueillis. Et puis, ils ont aussi, en venant sur Omnivore, c'est aussi ce qui a fait la recette, le succès du festival. C'est que c'est la promesse aussi de retrouvailles avec tous ceux avec qui on a pu bosser il y a quelques années. Les grandes retrouvailles du milieu de la bouffe.
C'est clair. Ça me fait plaisir de rencontrer tous ces gens au même endroit, quoi.
Donc voilà, c'est l'émulation, c'est l'envie de partager, de se retrouver. Et voilà, la caution Omnivore fait que, en général, ils n'hésitent pas. Et évidemment, Omnivore prend en charge les frais de déplacement, l'hébergement, etc. Mais il n'y a pas de cachet. En aucun cas, pour les intervenants.
Là, on est à quelques jours du lancement du festival. T'es confiant? Les budgets sont bouclés? Tu disais qu'on le savait largement avant. C'est-à-dire ton budget sponsoring, J'ai l'event, perd pas d'argent.
Si, il y a une prise de risque qui reste importante. Mmh. Si on a décidé de tenir, on savait dès le mois de février que ça allait être très compliqué. En étant confrontés, nous, au quotidien, à la réalité des chefs, notamment, qui ont dû manœuvrer, être très agiles, c'était le mot très à la mode du confinement, nous, on se sentait pas de lâcher l'affaire, quoi. Ouais. C'est-à-dire que leur niaque, leur envie de s'en sortir nous a porté aussi.
On s'est
vraiment donné comme mission de tenir pour les soutenir. Omnivore aussi.
C'est l'année ou jamais où il faut leur offrir une tribune sur ce sujet-là en plus.
Exactement. Et ce qui était aussi pour nous, je veux dire, essentiel, c'était de porter ce discours, d'enfoncer le clou sur ces urgences qu'il faut vraiment maintenant tout de suite considérer. On en a beaucoup parlé pendant le confinement, ça faisait la une de tous les JT, on parlait des chefs, on parlait des producteurs, à quel point leur rôle était déterminant. Je veux dire, sur Omnivore, ça fait 15 ans qu'on le dit, donc on n'allait pas se priver, là, cette année, d'y aller encore plus fort. Et c'est ça qui nous a animés, surtout, et c'est absolument pas le enfin je veux dire il y a il y a eu assez peu de considérations budgétaires, en fait. C'était vraiment apporter un soutien à la profession et aux filières qu'il y a derrière, les producteurs aussi. C'est ça qui nous a guidés, quoi, qui a fait qu'on a trouvé les ressources en nous pour sortir la chose malgré les obstacles.
Et on arrive à la fin du podcast. Ouais. Peut-être parler encore de cette édition-là. Est-ce que tu as un bon plan omnivore à partager avec nos auditeurs? Qu'est-ce qu'ils doivent aller voir? Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, bon, ça, il faut pas rater absolument pas?
Ce qui fait la force d'Omnivore, c'est que justement chacun vit le festival à sa manière. Avec tous les contenus qui sont proposés, il n'y a pas une personne en sortant du festival qui aura vu la même chose que l'autre. Mmh. Donc ça, c'est assez génial. C'est ce qui fait aussi la magie de l'événement. Moi, j'ai quand même un petit coup de cœur.
Vas-y.
On a aussi beaucoup reçu, hein, en organisant tout ça, beaucoup de bonnes énergies parmi les chefs. Je parlais de Vivien Durand qui vient s'installer 3-4 jours, mais on a aussi par exemple Alexandre Mazzia qui va venir de Marseille avec son food truck comme il l'appelle, Michel, du nom de son grand-père. Et donc il fait traverser son truck, il fait traverser la
c'est
France
lui qui
à son truck,
non?
Et on va s'intéresser à ça. Il est assez fou pour le faire, mais en tout cas il va s'installer sur l'esplanade du parc floral pour proposer sa cuisine en mode food truck. Donc ça, par exemple, c'est des petites surprises qu'on ne peut trouver que sur Omnivore.
C'est clair, c'est génial ça. Bon, ça c'est à pas rater, Philibert. On y va.
On va y aller.
Vous êtes bienvenus.
Et merci. Et si on parle de la suite, on n'a même pas vécu l'Omnivore 2020. Mais bon, je suppose que vous commencez quand même à réfléchir à la suite l'année prochaine. Comment on peut continuer à innover? Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on peut attendre déjà d'Omnivore par la suite? Est-ce que de nouvelles idées, de nouveaux trucs?
Il y a un vrai pari avec ce déménagement au parc floral et, comme je l'ai dit, une ouverture plus large au grand public. Donc, il faut qu'on continue à parler développement et faire en sorte que ces sujets, ces thèmes qui nous sont si chers soient encore plus partagés et que chacun au quotidien réfléchisse aussi à son mode d'alimentation.
Ah oui.
Hein, à chaque repas, on vote, hein, comme le dit Florent Lazenne.
Il faut qu'on change tous pour que l'impact...
Donc moi, ça, c'est ma mission première, quoi, c'est de faire en sorte qu'on sorte du cercle d'initiés et des convaincus pour aller parler encore plus largement. Donc,
c'est pour ça que peut-être le digital, la captation d'images, les podcasts par exemple.
Ah bah, pour être franc,
on pourrait faire des podcasts l'année prochaine.
J'allais y venir. Pour ne rien vous cacher, on avait un projet de podcast qui nous tenait très 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 à cœur.
Je sens que ça va pas nous faire plaisir là.
Non, mais il devait être animé par une des icônes d'Omnivore, qui est Sébastien Domoran, qui nous a quitté cette année et à qui on va évidemment dédier cette édition. Et donc le projet podcast, on l'avait avec lui, on avait tout ficelé et c'est très difficile de se projeter sur un podcast maintenant. Ouais. Ceci dit, oui, sur le digital, il y a aussi beaucoup d'ambition parce que,
pour
comme
avoir
je le disais,
plus d'impact.
Faire vivre Omnivore à l'année. Mmh. Alors, on le fait à travers nos foodbooks, nos magazines, mais oui, il y a un enjeu énorme par rapport à ça. Mmh. Donc ça, on va accélérer. Et puis après, il y a d'autres sujets qu'on voudrait aborder encore plus fortement. C'est celui de la craft beer. On a dû annuler pour le coup le mondial de la bière cette année.
Il devait
se tenir en mai et on l'avait rapatrié sur Omnivore en septembre.
Bonne idée.
Et voilà, sauf que là, clairement, ça n'était pas jouable sur les dégustations, sur le programme de soirée qui était lié, etc. Donc c'était niette de la part de.
Petit débordement.
Ouais, enfin c'était. En tout cas, on a voulu préserver Omnivore en coupant cette partie-là. D'accord. Donc on va remettre le paquet sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi. Il y a tout un mouvement très intéressant autour de la craft.
On adore ça. Ouais.
Et puis après sur le vin aussi, sur les vins, le vin, les spiritueux et l'univers du cocktail, on a aussi des ambitions.
Super. Et ça sera septembre aussi l'année prochaine ou
ah oui,
bon,
on
tout dépend
on,
un peu.
Non,
de
non, on va rester sur ces dates. C'est même
lieu ou on repartait en région.
Bon, on va voir comment ça se passe, mais le parc floral semble être un terrain de jeu assez idéal pour nous, quoi. Vraiment, à la fois dans Paris, à la fois un petit peu à l'extérieur, ce qui nous permet de proposer une vraie parenthèse. Donc non, on mise sur le parc floral et après, il y a évidemment toujours des ambitions à l'international parce que Omnivore se nourrit beaucoup de multiples influences.
Ouais, comme tu le disais tout à l'heure. Bah écoute, merci beaucoup Romain.
C'est un vrai plaisir Romain.
On va aller tester ça et on invite évidemment nos auditeurs à aller découvrir
et merci
le festival,
d'être
cette nouvelle édition.
Notre premier invité dans notre nouveau studio qui est à moitié
qui s'écroule, hein, donc on a encore un peu de boulot.
Allez,
merci beaucoup. Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.